toutes et à tous, nous sommes le jeudi 11 septembre. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et on réécoute sur notre site radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale puisqu'elle est consacrée à la JAE, la journée d'accueil des étudiants et étudiantes de l'Université Picardie Jules Verne. Ce matin, nos journalistes Rémi et Margot sont partis à la rencontre de plusieurs associations présentes pour cette occasion. Et elles sont revenues il y a quelques minutes du parc de la Haute-Oie où se déroule cette journée dédiée aux étudiants et étudiantes. Et on commence tout de suite avec la première interview, celle de Sam, une étudiante en Master 2 des métiers de la bande dessinée, mais aussi secrétaire de la Hutte Dessinée, une association étudiante.
Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Bonjour, moi c'est Sam, je suis secrétaire de l'association La Hutte Dessinée. On est là à la GE pour présenter notre association étudiante aujourd'hui.
C'est quoi La Hutte Dessinée ? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ?
Alors La Hutte Dessinée, c'est une association étudiante pour représenter et la L3 mais aussi le nouveau master métier de la bande dessinée qui est donc généralement dans la continuité de la licence art plastique. C'est une formation qui va proposer de créer des bandes dessinées, des personnages, du décor. On a un peu d'animation et on a surtout des rencontres avec des artistes. Ce sont des intervenants qui viennent nous présenter leur métier, que ce soit derrière, dans le monde de l'édition. Donc on a des maisons d'édition qui viennent directement présenter leur travail, comme des auteurs qui viennent en workshop une semaine ou plus pour nous proposer des ateliers et essayer de nouvelles choses.
Parle-nous un petit peu de toi, pourquoi tu as choisi ces études, voilà, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie, voilà, comme pratique artistique ?
Alors moi j'ai fait une licence art plastique, je suis rentrée ensuite dans le master pour continuer un peu dans tout ce qui est illustration. Moi c'est ce que j'aime, c'est pouvoir raconter des histoires avec des dessins, et c'est la majorité des gens qui font ça, on est là pour raconter des choses avec nos dessins. Après on a des gens qui sont plus dans le concept art, il y en a qui sont vraiment dans la bande dessinée beaucoup plus conceptuelle, qui veulent chercher des nouvelles manières de raconter sans texte, parfois même juste avec quelques traits. On est toujours en recherche de nouvelles façons de raconter des choses, et puis on a aussi nos mémoires qui nous permettent aussi de nous poser des questions sur la bande dessinée. C'est vrai que ça nous permet aussi de contempler un petit peu la bande dessinée contemporaine sous un nouveau regard et de mieux cerner tout le sujet.
On peut dire que tu es artiste. Concrètement, qu'est-ce qu'on apprend dans ce genre de master pour devenir illustrateur, illustratrice ?
Je pourrais dire qu'on apprend le dessin, mais au final, c'est pas ce que j'ai appris le plus. J'ai fait qu'une seule année et j'ai appris beaucoup sur la communication, rencontrer les gens, oser aller vers les gens. Et surtout, en fait, le plus important, c'est la curiosité, alimenter cette curiosité, ce goût de découvrir les choses. C'est principalement ça, en fait. C'est pour ça aussi qu'on a toutes ces rencontres avec ces auteurs. On a des échanges avec la Maison de la Culture, avec le Cirque Jules Verne. On participe au rendez-vous de la bande dessinée tous les ans. On est en lien avec l'association On a marché sur la bulle qui, elle aussi, nous pousse à aller voir un peu ce qu'il y a ailleurs. On va sur Paris, on va à Angoulême tous les ans avec les dernières années de master. Donc vraiment, je pense que ce qui nous apprend le plus, c'est la curiosité et voir ailleurs.
C'est quoi les prérequis pour rentrer dans ce master ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, faut pas avoir peur de se dire, j'ai pas fait d'études d'art auparavant. On a des gens qui avant faisaient ingénieur en aéronautique, on avait des gens qui travaillaient dans la biodiversité, on a des gens qui étaient en études d'archéologie. Donc c'est pas votre parcours scolaire qui importe, c'est votre envie de raconter quelque chose. Il y a de tout style, de toute compétence. Il y en a qui sont venus avec des traits tremblants et qui sortent aujourd'hui avec des dessins affirmés. Donc si vous avez la passion, ça va se sentir, donc il ne faut pas hésiter à tenter, parce que jamais on vous recalera avec méchanceté et dédain.
Je vois aussi sur votre table, on va revenir sur la hutte qui dessine, qu'il y a plein de petits, de mini bandes dessinées, en tout cas il y a plein de visuels. Est-ce que tu peux nous les présenter ?
Alors là, principalement, on a le fanzine La Terre après les Hommes, qui est donc le fanzine des M1 de la promotion 2024-2025. Chaque année, les M1 arrivent, choisissent ensemble un thème et ont chacun à peu près 7-8 pages pour raconter une histoire. Donc là, on a plusieurs petites histoires autour autour de ce sujet-là. Donc on a à la fois de l'apocalypse, à la fois du fantasy. On a plein d'approches à partir d'un seul et même sujet. Et donc on utilise cette bande dessinée, ce fanzine qu'on propose en avant-première au RDVBD pour présenter un peu les différents styles et les proposer aussi à des artistes et les montrer à des maisons d'édition pour montrer de quoi on est capable. On fait tout nous-mêmes, que ce soit la couverture, la mise en page, tout est fait par les étudiants. Il n'y a aucune intervention professionnelle hormis l'impression.
Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment on crée un fanzine? C'est quoi les différentes étapes de production? Très rapidement, évidemment, mais est-ce que tu peux me donner les grandes étapes?
Beaucoup de nuits de sommeil manquées. Non, on a de la chance, on a des étudiants qui faisaient du graphisme auparavant, donc ils nous ont beaucoup aidés. Je pense particulièrement à Louane qui a fait toute la pagination, qui s'est démenée pour rendre ce projet-là. Donc on a d'abord les idées, on était avec des gens qui, des professeurs, des BDistes à qui on parlait de nos sujets, qui revenaient avec nous en disant oui, ton idée elle est bien, moi je le vois comme ça. C'est beaucoup d'échanges, même avec les autres étudiants, on était entre nous à se montrer nos planches pour essayer de s'améliorer parce qu'il y en a pour qui c'était la première fois qu'ils faisaient des planches de bande dessinée, donc c'est assez impressionnant de devoir faire d'un coup 7 pages. Et du coup, oui, on a une première phase de sketch, après le line, après la couleur, et à chaque étape, on est là avec des artistes qui viennent nous aider, nous soutenir, et surtout nos camarades qui sont derrière nous pour nous donner conseil.
Alors on peut aussi revenir encore une fois sur l'asso, est-ce qu'il y a des initiatives que vous mettez en place au long de l'année? Voilà, comment ça se passe pour vous?
Alors on est surtout là sur des stands tels la GAE pour présenter la formation, parce que comme j'ai dit, le master il est tout récent, donc même s'il y a beaucoup de gens qui postulent, c'est vrai que ce serait bien de reconnaître un petit peu mieux cette formation qui est quand même super intéressante. Moi j'ai toujours fait des études classiques, littéraires, etc. Là c'est la première fois où je suis vraiment dans une formation qui nous pousse à aller dehors, aller à des endroits à droite, à gauche pour essayer de voir plein de choses. Et sinon c'est aussi soutenir ses étudiants. On a par exemple le travail de Laurent qui est exposé aujourd'hui, qui est donc aujourd'hui un ancien master. On l'a aidé à financer son projet, il a auto-édité son travail. On est là aussi pour aider nos étudiants pour avoir les statuts artiste-auteur. En fait on est là pour à la fois aider l'étudiant d'aujourd'hui et le futur artiste de demain.
Merci beaucoup pour toutes ces infos. Comment je fais si j'entends cette interview, que je suis intéressé, comment je fais pour vous retrouver et éventuellement retrouver des infos sur le master dont tu viens me parler?
Alors on a un Instagram, la hutte dessinée, mais sinon on est aussi disponible par mail, lahuttedessinée@gmail.com. on sera toujours là pour répondre à vos questions, on est très disponible, il faut surtout pas hésiter à venir poser des questions, on est toujours ravis, et puis c'est toujours intéressant de discuter avec vous, même si au final vous venez pas dans notre formation, c'est toujours cool de rencontrer des artistes.
Eh bien, merci beaucoup à toi, Sam, et puis bon courage pour cette journée un peu venteuse et pluvieuse.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
On continue avec l'interview de la coprésidente d'Erasmus Student Network, Amiens.
Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter?
Bonjour tout le monde, c'est Simonetta Ponziano, du coup je suis coprésidente de l'association Erasmus Student Network de Amiens.
Est-ce que tu peux nous présenter cette association, en quoi elle consiste?
Alors du coup, cette association, c'est une association qui est née post-Deuxième Guerre mondiale, comme plein d'associations avaient l'intérêt de du coup combiner plein de peuples différents, et ça grâce du coup à ce réseau d'étudiants internationaux qui, grâce à la mobilité, Erasmus ou autre, ils pouvaient se rencontrer dans plein de pays. Et du coup, l'intérêt c'est pour nous, c'est de faciliter leur intégration dans les villes où ils vont voyager, en France par exemple, mais il y en a dans toutes les villes du monde. Donc il y en a partout en Europe et même au-delà.
Parle-nous un petit peu de toi, qui es-tu? Est-ce que tu es amiénoise? Est-ce que tu viens d'ailleurs? Est-ce que tu as voyagé pendant tes études?
Oui et non. Du coup, alors, je ne suis pas du tout d'ici. Moi, je suis italienne de base. Après 10 ans à Strasbourg, j'ai emménagé ici parce que je travaille, et pour du travail. Et du coup, après ce emménagement, en fait, avant, j'ai habité dans plein de pays différents, dans l'Islande, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, juste avant de venir ici à Amiens.
Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de bouger pendant tes études? Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu aussi cette expérience, le fait de partir dans un pays étranger pour étudier?
Au début, c'était très effrayant parce que du coup, moi, j'étais italienne depuis très longtemps. Donc, beaucoup de générations en Italie, jamais bougé. Et du coup, je fais ça une première fois un peu par hasard. Et depuis, je suis devenue accro. Donc, j'ai envie de faire plein de choses. Et grâce au programme de mobilité que l'Erasmus, mais pas que, peut faire, du coup, j'ai pu vraiment profiter de toutes mes mobilités en sérénité parce que j'étais sûre que j'allais rencontrer quand même un réseau social tout le temps où j'allais, quoi. Donc en fait, ça m'a vraiment calmée.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de voyager?
Du coup, je pense que j'ai une personnalité très extravertie. Avant, j'étais beaucoup plus timide. Et du coup, le fait de, effectivement, casser un peu ces barrières de la peur, de pas connaître où j'allais, du coup, de m'adapter, ça fait que maintenant, j'ai un caractère un peu plus exubérant, si on peut dire ça comme ça.
Alors, on connaît toutes et tous le programme Erasmus. Est-ce que tu peux nous le représenter? Tu nous parles aussi d'autres programmes de mobilité. Est-ce que tu peux aussi nous en parler?
Oui, bien sûr. Du coup, là, le programme Erasmus, du coup, c'est né aussi avec ce principe du coup de mobilité. L'intérêt, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, c'était très restreint. Maintenant, ça a beaucoup élargi ses horizons, même en termes de cible, de public cible. De base, c'était que des étudiants. Là, maintenant, ça peut être un peu tout n'importe quoi. Des travailleurs aussi peuvent être dans un programme Erasmus. Donc, l'intérêt, c'est qu'effectivement, il y a de la mobilité. Il y a une partie qui est financée par l'Union européenne pour permettre du coup ce voyage et du coup la meilleure connaissance de l'autre, autre avec un A majuscule bien sûr, donc tout autre possible et imaginable. Cette année, nous avec du coup cet Erasmus Network, on peut participer à plein d'activités à l'international, ça grâce aussi à l'appui du Conseil de l'Europe, par exemple maintenant l'Erasmus ça touche aussi l'associatif, alors qu'à une époque c'était pas du tout le cas. Donc ça c'est vraiment pour faire comprendre qu'effectivement les évolutions sociales, ils ont fait que maintenant on ouvre nos horizons. Tout le monde a besoin de voyager, du coup, tout le monde peut voyager.
C'est quoi les critères pour pouvoir bénéficier d'Erasmus?
Alors, ça dépend du programme de mobilité qu'on envisage. Après, il y a des programmes qui sont beaucoup plus liés du coup à l'éducation. Donc, effectivement, être dans une structure éducative, pas forcément d'enseignement supérieur. On peut faire des programmes Erasmus maintenant aussi au lycée, au collège, etc. Ou également être quelqu'un qui est en stage. Et en stage, on a tout à fait le droit de bénéficier aussi de ce programme. Ou sinon, ça dépend toujours du programme, il y en a plein. Ou sinon, effectivement, si on est travailleurs, par exemple, autant que fonctionnaires, il y a des groupes de travail qui peuvent voyager ensemble pour connaître d'autres équipes dans d'autres pays et échanger.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement qu'il faut faire, les différentes procédures à faire pour pouvoir voyager et bénéficier du dispositif Erasmus?
Alors, oui.
Quand on est étudiant, si possible.
Plutôt quand on est étudiant, parce que moi, en étudiant, j'ai eu la chance, j'ai pu bénéficier deux fois de l'Erasmus, du coup. J'ai fait un Erasmus études et un Erasmus travail, donc stage. Donc, dans l'Erasmus études, effectivement, il y a toute une procédure qui est quand même, il y a un service de l'université qui t'accompagne dans toute cette procédure, donc en fait, t'es pas seul à faire ça. C'est la direction des relations internationales, donc la DRI, si on veut dire ça comme ça. En fait, c'est un service de l'université qui l'est mis là pour essayer d'aider dans les démarches, notamment de Learning Agreement, parce qu'il faut choisir des cours, qu'ils ont un certain nombre de CTS qui correspond en France, parce que pas dans tous les pays on a le même système. Mais du coup, l'intérêt de s'appuyer sur ce service-là, c'est de vous accompagner, notamment dans cette procédure, que parfois ça peut être un peu chronophage. Mais dans le reste, effectivement, après, à un moment donné, quand on sera accepté dans l'université en question, c'est assez simple, en fait. C'est plus difficile à dire qu'à faire, il faut partir et puis il faut faire l'expérience.
Imaginons que je suis un étudiant en histoire à Amiens, est-ce que je peux aller dans n'importe quelle ville universitaire en Europe? Comment se fait le choix de l'université, le choix de la ville?
Alors du coup, ça compte aussi sur des partenariats bilatéraux quoi. Ça dépend de l'université parce qu'en fait il y a beaucoup de partenariats entre universités, ça c'est vraiment derrière les coulisses. C'est-à-dire quand j'étais à Strasbourg, j'étais partenaire avec tout le monde, je pouvais aller en Chine, en Géorgie. Alors ici à Amiens, c'est des universités qui ont la même ampleur à l'étranger. Du coup, par exemple, on peut partir, grâce aussi à ce service de l'université, on peut savoir les pays où on peut partir pour les disciplines qu'on veut traiter. Par exemple, en histoire, ça sera peut-être sûrement l'Italie, ça sera l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Hongrie peut-être. Mais peut-être, par exemple, en sciences des matériaux, biochimie, etc., ça ne sera pas forcément les mêmes pays parce que du coup, il n'y a pas les mêmes disciplines qui sont proposées.
sur le côté purement pratique, une fois que je suis là-bas, en termes de logement, d'argent aussi, c'est une question qui travaille quand même très souvent les étudiants. Comment ça se passe ?
Alors, du coup, moi, dans les deux cas, c'était deux cas très différents. Dans le cas de l'Erasmus plus stage, j'étais en stage, donc en fait, ils m'ont trouvé le logement. Dans le cadre de l'Erasmus plus études, donc le plus, c'est pour englober autres pays que les, l'Europe. Enfin, il y a aussi les États-Unis, le Japon, etc. Mais du coup, dans le cadre de l'Erasmus plus études, moi, là, c'était, en fait, ça dépend de l'université qui va nous accueillir. Bah, moi, soit l'université me proposait des logements, soit moi, j'allais m'inscrire dans une plateforme. Moi, j'ai choisi plutôt de m'inscrire dans une plateforme pour être sûr d'avoir un logement qui correspondait à mes besoins. Mais d'habitude, c'est l'université aussi qui vous aide, notamment quand on est en Erasmus, à vous chercher le logement. Par exemple, mon copain, bah, lui, il était en Norvège. Bah, lui, c'était l'université qui lui a donné le logement.
Et en termes d'études pures et dures, en termes d'équivalence, les cours qu'on va suivre, voilà, comment ça se passe pour valider un semestre dans un pays étranger ?
Alors c'est là aussi, ça dépend beaucoup de la discipline en question. À savoir déjà que dans un premier temps, ici en France, pour avoir 30 ECTS, on a plein de petits cours à droite à gauche. Alors qu'à l'étranger, c'est pas du tout le cas. Par exemple, moi au Danemark, j'avais 3 cours de 3 heures la semaine. Et chaque cours, ça faisait 10 crédits, quoi. Donc, en fait, j'avais 30 crédits en une semaine de cours, quoi. Enfin, c'était hallucinant. Donc, le système de travail, il est très différent, ce qui fait que, bah, par exemple, j'avais beaucoup d'autonomie par rapport à ici, qu'on a vraiment du contrôle continu, etc. Mais bon, après, c'est quelque chose de différent. Mais, par exemple, à l'époque, bah, puisque j'avais que 3 cours, je me rappelle que mon université à l'époque, du coup, à Strasbourg, ils étaient un peu titubants en disant « Mais en fait, 3 cours, tu peux pas... » En fait, c'était 3 cours hyper costauds. Et du coup, certains ECTS, bah, du coup, j'étudiais le néerlandais à l'époque. Bah, au Danemark, je pouvais pas l'étudier. Et du coup, je devais quand même les compléter. Mais c'était en accord avec l'enseignant. Et il était hyper cool parce qu'il voulait vraiment que je faisais cette expérience. Donc, il m'a demandé vraiment très peu, quoi.
On va revenir à l'association que tu représentes aujourd'hui. De quelle manière justement vous allez intervenir vis-à-vis des étudiants qui ont envie de mobilité ? Comment vous les accompagnez ?
Bah, du coup, alors on a deux cas. On a les étudiants qui arrivent, les arrivants, on les appelle comme ça. Et c'est souvent internationaux. Donc par exemple, on a des partenariats avec l'école de commerce, avec l'université, pour essayer d'organiser des journées ad hoc pour eux, pour les faire rentrer un peu dans l'esprit USN qui est totalement... informel, totalement voilà, décontracté. Donc ça, c'est pour les arrivants, donc les internationaux. On essaie vraiment de proposer plein d'activités pendant la journée. D'ailleurs, vous pouvez regarder le programme et en parler si vous, si vous souhaitez. Mais en fait, voilà, des moments un peu chill, des moments un peu plus formels où on présente un peu ce qu'on fait. Et à la fois pour les locaux, ils peuvent bien sûr intégrer notre asso autant que bénévoles, nous donner des coups de main et bénéficier de tous les avantages du projet Erasmus Student Network, c'est-à-dire des voyages pendant toute l'année, rencontrer des gens qui, comme nous, sont passionnés par le voyage et par la rencontre, et bien juste profiter de notre vie, quoi.
Justement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme activité sur le village étudiant de la JAE ? Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors du coup, aujourd'hui, on est encore en plein, voilà. En fait, on proposait un quiz sur la mobilité internationale avec en gagnant des bonbons, si les gens y sont intéressés, bien sûr. Donc, pour voir aussi les connaissances qu'ils ont, les étudiants, peut-être en première année d'université, sur tout ce qui est programme, mobilité, parce qu'il y en a plein. Voilà, on ne connaît pas tout. Ça c'est de 1, et puis on demande aussi une carte interactive entre guillemets où vont dire où ils viennent ou d'où ils ont les origines et où ils souhaiteraient aller au moins une fois dans leur vie, et suite à ça en fait on va faire cette carte interactive un œuvre commun collaboratif avec tout le monde.
Merci beaucoup pour toutes ces infos. Peut-être pour terminer, est-ce que tu auras un message à faire passer aux étudiants et aux étudiantes qui vont nous écouter ce midi ?
Engagez-vous dans tout ce qui est associatif, c'est vraiment une expérience formidable et c'est complètement complémentaire avec vos études. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous enrichir pendant toute la vie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à Margot et à Rémi pour ces reportages réalisés à la JAE, la journée d'accueil des étudiants et étudiantes. Pour nos auditeuristes, vous retrouverez deux autres interviews réalisées pendant cette journée lors de votre émission du lundi 15 septembre. On écoutera deux interventions d'associations présentes sur le territoire, Emmaüs et Banque Alimentaire. Je le rappelle, ce soir, il y a des concerts gratuits pour tous à la JAE et donc au Parc de la Haute-Oie. Vous retrouverez entre autres Zomat à 19h10 et Mid à 20h sur la Grande Scène. Mais il y a aussi une scène étudiante avec Sola à 19h40 et Trap Turner à 21h15. Pour continuer cette émission, on écoute Bread, Butter, Tea, Sugar de Wolf Alice. Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens et vous écoutez votre quotidienne d'actualité locale et associative. Pour la chronique du jour, j'ai décidé de vous parler de la petite surprise que nous avons reçue dans nos mails, nous, journalistes encartés. Le mail commence comme ça. La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a découvert fortuitement le document diffusé récemment auprès des forces de l'ordre intitulé « Schéma national des violences urbaines ». Bon, clairement, c'est pas rassurant, et le reste du document non plus d'ailleurs, puisque dans ce document, il y a un point d'attention qui énonce, et là, je cite, « La prise en compte du statut des journalistes tel que consacré par le schéma national du maintien de l'ordre ne trouve pas à s'appliquer dans un contexte de violence urbaine ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que la liberté d'exercer et la sécurité des journalistes sont remis en question pendant l'exercice de leur métier. Typiquement pendant la couverture des manifestations ou des rassemblements. Cette petite note, elle va à l'encontre de la loi de 1981 sur la liberté d'expression, mais aussi de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui rappelle à tous le droit à l'information. Même si le métier de journaliste peut être critiqué et parfois à raison, La présence des journalistes lors de manifestations revêt une importance primordiale. Elle permet de rendre compte des opinions et revendications des manifestants et manifestantes et de la manière dont elles sont exprimées, ainsi que l'intervention des autorités publiques et des forces de l'ordre. Il est donc impératif de protéger le droit d'informer, pilier comme le respect de l'ordre public de notre démocratie. À cet égard, la sécurité physique des journalistes doit être garantie. Et là, tout ce petit paragraphe, je viens de vous citer le schéma national du maintien de l'ordre du ministère de l'Intérieur, publié en 2020. Donc soyons clairs, ici, le nouveau document diffusé au début du mois, ou on ne sait pas quand, mais récemment, auprès des forces de l'ordre, va à l'encontre même du texte publié par le ministère de l'Intérieur en 2020, au-delà d'aller à l'encontre même de d'autres lois que j'ai citées avant. Donc voilà, un petit coup de gueule, mais c'est une affaire à suivre puisque la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a demandé la suppression de ce point d'attention. Nous, à Radio Campus Amiens, on essaiera toujours au mieux de vous informer et de vous rendre une information sourcée et juste. Merci pour votre écoute. On se retrouve demain pour une nouvelle émission d'Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec Witch de Davon Cole.
Rumor on the street is that her apples are delicious. The jury said she's charming, but her exes say she's wicked. I swear to God, I saw her howling at the sky. She ain't out to get you, but she's better on your side. And she don't wanna be anybody else. She's a woman in total control of herself. It's such a wonder to be under her spell. What a woman in total control of herself. Villainous kitty queen, she's got tricks up her sleeve, and I got a few up mine. She said, am I bad to the bone? 'Cause I get